Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et le trail running, on va en parler aujourd'hui en long, en large et en travers. Et ça va certainement faire réagir un épisode sous format actualité. Vous savez que je propose rarement ce type d'épisode, mais pour réagir un petit peu à l'actualité récente et notamment à une annonce qui a été faite par Nico Darmaillac, alias le Lémurien, qui est l'organisateur de la Skyrun à Asquin, dans le Pays Basque. Une épreuve sur laquelle je m'étais rendu cette année pour mon 200e épisode et j'avais été reçu de manière assez incroyable sur place. Et on a appris que cette édition 2024 allait être la dernière de la Skyrun. Et s'en est suivi une communication assez tranchée de la part de l'organisation dans un premier temps et puis de Nico Darmaillac que je reçois donc dans cet épisode. On va parler de plein de choses, des raisons qui ont poussé Nico et ses équipes à ne pas reprolonger la Skyrun après cette 10e édition. On va rentrer dans plein de sujets. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Je remercie d'abord Nicolas d'avoir accordé du temps au LTP dans cette période un peu chargée. Il a été pas mal sollicité. J'espère que vous allez profiter et que vous allez comprendre cette décision en écoutant cet échange avec Nico Darmaillac, le Lémurien, l'organisateur de la Skyrun. Allez, bonne écoute. Salut Nico, je suis extrêmement heureux de te retrouver dans le LTP. Comment vas-tu ?
Eh bien, très bien, très très bien, mois de mars, donc à 6 mois d'événements, et là c'est parti quoi, on se relance dans mon gars.
Quelles sont un petit peu les actualités pour toi? Là, on va parler de l'annonce que vous avez fait récemment, mais quelles sont un petit peu les actualités? Est-ce que déjà vous avez été satisfait de la dernière édition de la Skyrun?
Oui, l'édition 2023, franchement, c'était une édition topissime. On a eu de la réussite sur les conditions météo, parce que ça joue beaucoup en septembre à Skyrun. Hein. Quand on a la canicule, c'est jamais bon, ça met vraiment les coureurs un peu en danger, en difficulté. Donc nous, au niveau regard, on est un peu sur les nerfs. Et donc là, cette année, c'était bonne température et tout. Donc du coup, derrière, vraiment une fréquentation très forte. Donc quand t'as la grosse soirée et que tout se passe bien sur la course, ça peut faire qu'une super édition.
Là, c'est clair, c'était chouette. On a passé un super moment en 2023 pour mon 200e épisode. Je vous remercie encore une fois de m'avoir reçu aussi sympathiquement. C'était vraiment chouette avec Fifi et toute l'équipe de la Skyrun. Vous avez fait un sacré événement. En tout cas, merci pour votre accueil. On va gentiment passer ce qui fait cet épisode et notamment l'annonce que vous avez fait récemment sur les réseaux de la dernière édition et la 10e édition de la Skyrun cette année. Tu as donc proposé cette décision d'arrêter. Donc c'était la 10e année. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les raisons principales qui ont fait que vous avez décidé de stopper cet événement?
Ouais, tu vois, c'est vrai que quand tu lis un petit peu les différentes interviews, c'est compliqué d'expliquer clairement. C'est un tout en fait. Il n'y a pas de saturation à titre personnel d'organisation, il n'y a pas de problème de bénévoles ultra motivés, il n'y a pas de problème financier, de financement, de sponsor. Le problème, il est vraiment sur l'état d'esprit. Et c'est ça que certains n'arrivent pas à comprendre. On est sur un modèle de course assez particulier et qui, pour moi, ne peut plus perdurer. Ce modèle de la Skyrun, là où il est un peu unique, c'est qu'en fait, il va mêler la partie élite, où on est vraiment une course qui rassemble du gros niveau. Donc, cette partie-là, elle est très affectée par la professionnalisation du milieu, quoi. Donc, pour avoir un événement qui rassemble des élites, il faut avoir des prestations qui vont un peu avec, les prestataires qui vont avec, tout ça. Mais à côté de ça, la Skyrun, elle se veut populaire, quoi. C'est que c'est une grande fête pour tous. Les dossards, ils sont accessibles à tous. Donc, il n'y en a pas pour tout le monde. C'est une course qui est limitée en termes d'engagés, mais elle est ouverte à tout le monde. Et justement, on a fait en sorte que tout le monde puisse y venir avec une jeune, une rando, tout est gratuit. Du spectacle sur le parcours. Et ça, je trouve que maintenant, les deux ne sont pas conciliables. C'est soit tu vas vers l'un, soit tu vas vers l'autre. Si tu veux aller vers la course élite, vers la professionnalisation, mais de toute façon, ça va impacter ton prix d'inscription, puisqu'il va falloir payer toutes tes prestations et tous les frais qui vont avec. Et si tu veux rester une course de village où tu peux garder des tarifs accessibles et faire une fête avec un état d'esprit tout à fait sain, quoi. C'est tout à fait possible aussi. Mais je pense que les élites, ils ne viendront plus. Et les prestataires qui vont avec, les journalistes qui s'achètent, les photographes, tout ce qui va avec, ça va plus ensemble. Je trouve que, voilà, si je veux caricaturer un peu, ces deux modèles ne fonctionnent plus. Des courses élites, il y en a maintenant, mais elles sont beaucoup moins accessibles à tout le monde. Et des courses de masse et des courses populaires, il y en a plein aussi, et heureusement que ce modèle existe encore.
Donc, de ton point de vue et de ton expérience, de votre expérience, la problématique qui a engendré cette annonce, c'est le fait que ce fonctionnement hybride entre l'événement populaire et l'événement compétitif, moi, ce que j'avais clairement ressenti quand je suis venu, hein, c'est ça qui, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'épisode 200, c'est-à-dire que on a un événement qui regroupe tous les éléments, les particularités du trail qu'on a envie, hein, la compétitivité, le partage. Et donc, toi, de ton point de vue, c'est cet aspect-là particulièrement qui fait que pour vous, aujourd'hui, c'est plus tenable.
Ouais, pour moi, c'est plus tenable pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est que là, pour assumer tous ces frais d'organisation, qui sont un petit peu, qui sont vraiment développés de manière exponentielle ces dernières années, et pour les assumer, t'as plus qu'une solution, c'est faire exploser les prix d'inscription. Et du coup, ta course, ça devient plus accessible à tout le monde. C'est ça un peu que je critique dans les articles. Il y a des titres un peu chocs, que le trail est réservé aux classes sociales favorisées, je sais plus comment ça a été formulé. Bon, voilà. Le titre est un peu choc. Mais quelque part, c'est vrai, c'est la réalité quand même. C'est que pour assumer et devenir une vraie course de renommée ou avec une grosse visibilité ou une course internationale, il faut mettre des ronds. Et pour mettre des ronds, en général, pour l'instant, à 80%, c'est le coureur qui les paye. Quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que cette... donc, c'est vrai que quand on lit le post d'une part de la Skyrun qui est qu'on va dire un peu plus policé et le tien derrière, on a quand même l'impression que c'est une critique un peu généralisée du milieu trail, de son évolution globale au-delà de ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire l'organisation de la Skyrun en elle-même, c'est-à-dire que on sent que c'est un ras-le-bol et que donc je te cite hein, sur la conclusion de ton post, tu dis je pourrais écrire encore et encore, mais je pense que vous avez bien compris le pourquoi du comment. Je ne m'y retrouve plus du tout. J'ai donc très mal à mon trail. Donc, on sent vraiment qu'au-delà de tout ce que tu viens de dire, il y a une notion plus générale, quoi.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai du mal avec cette évolution hein, dans le trail business et économique. Et, voilà, j'ai du mal, quoi. C'est une chose qui est de plus en plus prégnante et après qui a toutes les conséquences qui vont avec et que j'ai cité dans mon poste, quoi. Tu vois. On va parler maintenant, on parle un peu de dopage, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on va parler de fédération, de championnat, d'olympisme, le mot commence à sortir, hein, ça veut dire qu'il y en a qui quand même y réfléchissent. Hein. On commence à parler de télé, enfin, tu vois, c'est tout ça, c'est pour moi, ça n'apporte jamais du bon dans le sport, quel que soit le sport. C'est-à-dire, moi, je suis prof de sport, j'ai une vision aussi un peu globale, hein, je ne suis pas monocentré sur les sports de montagne, j'ai quand même... je pense que tout ça, c'est pas bon, quoi. Et alors que je suis venu chercher ça dans le trail, quoi. Tu vois, quand j'ai quitté le cyclisme, j'allais même aller, hein, j'ai trouvé ce sport hyper sain, quoi. Il y avait de la compétition, mais de la compétition saine, quoi. De la compétition désintéressée. Et c'est ça qui me plaisait, quoi.
Ouais. Pour en revenir un petit peu, là, on parlera de ces sujets généraux tout à l'heure, mais pour en revenir à l'organisation à proprement parler de la Skyrun, imaginons que tu te mettes dans un cas où vous aviez choisi avec l'équipe d'organiser un événement uniquement populaire, la Skyrun serait encore existante aujourd'hui. C'est vraiment, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est vraiment cet aspect de compétitivité et de positionnement de la Skyrun sur un niveau de compétitivité important qui a fait que ça colle pas. Hein.
Ouais, la question, je me la suis pas vraiment posée. Parce que la Skyrun, le projet, il a jamais changé du début à la fin. Pour moi, l'entité de la Skyrun, c'est ces deux facteurs. Donc, on s'est jamais dit, tiens, on va aller d'un côté ou on va aller de l'autre.
Ouais.
Je sais pas. Sinon, on aurait fait une course populaire, on serait jamais préoccupé de faire venir des élites, l'édition 1 et d'avoir cette espèce de course au chrono, de course aux médailles, des défis. Ça, c'est l'entité de la Skyrun, tu vois. Donc, on s'est pas posé la question, de faire évoluer la Skyrun vers un autre aspect. Non, on l'a voulu comme ça, elle a fait 10 ans comme ça, on veut faire la 10e comme ça, voire encore plus, tu vois, si on peut, sans changer de ligne, quoi, justement.
Tu parlais aussi dans les raisons qui ont justifié cette annonce, du fait qu'il y avait, pour le... maintenir cet événement, il fallait augmenter les tarifs d'inscription liés justement par rebond à l'augmentation des tarifs des prestataires. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus, Nico?
Bah, pour faire assez simple, je pense qu'en 2014, on est sur un budget global qui doit être aux alentours de 30 000 euros. Et en 2023, on était sur un budget global qui est aux alentours de 70 000 euros. Pour un événement où on a quelle différence? On a le même nombre de coureurs, c'est la même course, c'est la même distance.
Donc en 10 ans, tu as multiplié par deux, quoi.
Facilement, un peu plus même.
Un peu plus.
Donc, bien sûr que l'événement s'est amélioré, puisqu'on a apporté un écran géant pour les spectateurs, on a mis quelques. Le buffet, la soirée a dû s'améliorer un peu, tout ce qui est offert, les dotations, mais quand même, ça n'explique pas du simple au plus du double, quoi. Mm-hmm. C'est que quelque part, il y a des gens qui, voilà, qui ont besoin d'être rémunérés. Les prize money, on les a intégrés, tu vois. Je suis pas contre tout, hein, tu vois. Je suis pas réfractaire à l'évolution, mais je trouve qu'à mon avis, il faut des limites, quoi. Et que là, on est sur une partie trop exponentielle.
Mm-hmm. Ok. Et sur l'aspect poste de dépenses lié à l'événement, il y a des choses qui n'ont pas forcément bougé. Je pense notamment à la sécurité. C'est les choses qui ont pas trop bougé. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des postes qui auraient pu sur lesquels il y aurait pu avoir des économies, notamment les chronométreurs, etc., en passant par d'autres prestataires, ou est-ce que vraiment vous étiez sur une formule qui était limite de ce point de vue-là, quoi?
Non, là, je pense que nous, on est à 70 000 euros, on est quasiment en plus au plus bas de ce qu'on peut faire, parce que les gens, les prestataires qui viennent sur la Skyrune connaissent la Skyrune et ils viennent aussi par sympathie, par les valeurs qu'on défend, par le modèle qu'on défend. Mmh. Donc, même en ayant doublé les prestataires, eux, ils ont diminué leur devis pour venir à la Skyrune. Je sais pas, je te donne au hasard le coût médical, purement médecin, on est à, allez, je crois, 1500 euros. J'ai reçu des devis de sociétés médicales qui se sont professionnalisées, qui font que ça, à 4500 euros. Mmh. Hors frais de transport, parce qu'ils viennent de Paris. Et tu vois, tu reçois des devis hallucinants. Nous, on fait tout en local, en fait. Voilà. Le chronométreur, c'est le médecin Jean Delus, depuis la première. Donc, bien sûr que c'est son métier, mais si je fais venir un chronométreur du genre Live Trail, j'imagine même pas la facture. Enfin, à mon avis, c'est 5 fois plus que ce qu'on paye actuellement. Mmh.
Donc, malgré ces choix, on va dire économiques, locaux, etc., c'est...
On tient plus. Voilà. Tient plus. Mmh. Ouais, parce que les gens en ont fait leur métier et qu'ils veulent en vivre, quoi. Voilà.
Ouais. On parlera un petit peu de cet aspect global lié à la communauté du trail. Tu parlais aussi des choses qui sont un peu dérangeantes de ton point de vue et de votre point de vue. C'est l'attitude entre guillemets des trailers aujourd'hui, le fait qu'on n'est plus sur une société de consommation de dossards avec un attendu par rapport aux prestations, des gens qui sont beaucoup plus exigeants, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce point de vue?
Ouais, ça m'inquiète un petit peu quand je vois sur, ici chez nous au Pays Basque, qu'on a une petite page dédiée aux trailers, le nombre de reventes de dossards qu'il peut y avoir, mais c'est le Vinted du trail, quoi. C'est tous les jours, je cherche un dossard pour machin, moi je revends un dossard avec le t-shirt, je revends un dossard avec le repas. C'est un truc de fou, c'est tous les jours. Alors moi, en tant qu'organisateur, ce que je vois aussi, c'est les annulations. Les gens, ils ont un dossard qui est à la Skyrune, qui est un peu prisé, tu te dis quand même, tu préviens, quoi. Ah non, chaque année, c'est 50 non partants qui préviennent pas, quoi. 50 au Bamouk. Et bon, voilà. J'ai oublié de prévenir.
Ça, t'as vu une évolution de ce point de vue-là sur c'est au fur et à mesure des années, ça s'est dégradé, ce point de vue-là?
Ouais, ça augmente encore. Ça augmente. Et ouais. Alors, c'est sûr qu'on a des impératifs parce que maintenant, on oblige à s'inscrire longtemps à l'avance. Alors, la Skyrune, on a essayé de limiter. C'est-à-dire qu'on fait ça en juin pour septembre. C'est 3 mois. Mmh. Malgré ça, tu peux avoir des aléas, tu sais, des problèmes, des impératifs familiaux, tout ce que tu veux. Les blessures, c'est autre chose. Parce que les blessures, il y en a qui se les cherchent. Quand tu t'inscris à un ultra fin août et que tu t'es inscrit à la Skyrune fin septembre, une fois sur deux, ça passera pas, quoi. Oui. Tu vois. Et sauf qu'ils veulent tous tout faire. C'est tellement bien de pouvoir tout faire qu'à un moment donné, ça passe pas, quoi.
Est-ce que ça, c'est un point qui est usant mentalement, psychologiquement pour les équipes de plus en plus?
Les équipes, non, mais moi je trouve, à titre personnel, c'est mon avis perso, Ça n'a plus de sens. Les gens, ils prennent 10 dossards, ils enchaînent un marathon, 15 jours après, ils font un 80, 3 semaines après, ils font un 70. Mais il n'y a plus aucune notion de performance. Tu n'entraînes qu'un, tu n'entraînes jamais, en fait. Tu fais ta petite course du dimanche, et, tu fais deux footings, entre, hein, tu récupères, tu fais deux footings, tu te régénères, et après, tu refais la course. Tu vois, on n'est pas tous des élites, quand même, hein, pour enchaîner des trucs comme ça. À un moment donné, je sais pas, tu peux cibler une course tous les 2 mois, ça me paraît bien, déjà, quoi.
Non, c'est clair.
Le modèle du trail a enchaîné des distances, non, comme ça, c'est... Au début, le tout début, là, quand ceux qui faisaient un marathon par an, voire deux par an, déjà, ils trouvaient que c'est dur, sur route, en train, t'en fais 10, pas un problème, quoi.
C'est clair. Ça aussi, c'est...
Ça a des conséquences. On a des gens blessés, des gens qui ont des bandages de partout, tu le vois bien, quoi. On a tous un moment de quelque part, quoi, quand on fait du trail, parce que forcément, je pense qu'on n'est pas raisonnable sur l'enchaînement des courses, on veut faire trop de courses.
Ça aussi, ça fait partie des choses dont que vous mettez en avant, que vous critiquez, sur lesquels que tu te retrouves plus, toi, en termes d'état d'esprit. Mais après, d'un autre côté, je me dis, avant, au début du trail, on était aussi, tu vois, dans une logique de toujours vers l'ultra, toujours aussi un peu plus. C'était pas un peu le cas aussi avant?
Ouais, l'évolution vers l'ultra, elle est arrivée assez vite quand même, c'est vrai. C'est maintenant, je sais pas, l'UTMB, il a bientôt 20 ans, non? Oui, c'est ça. Ouais, on y arrive bientôt.
Bah 2003, ouais. Ça a 21 ans.
Ouais, c'est ça. C'est les derniers 20 ans. Donc, tu vois, ouais, c'est pas nouveau, nouveau. Mais c'est exponentiel, là aussi, quoi. C'est exponentiel. Je trouve qu'il n'y a plus de limite, quoi. Ni à la distance, à l'ultra-distance. Et après, on touche l'autre problème, c'est les barrières horaires. C'est le truc qui me chiffonne, c'est que il y en a plus des barrières horaires, en fait, parce que on a besoin de finishers, parce qu'on a besoin de clients qui reviennent, quoi. Mais en fait, on n'a plus d'exigences. On permet quand même à plus de la moitié du peloton de tout faire en marchant. Enfin, moi, j'ai fait l'ultra, hein, et je pense pas que je courais beaucoup. Et j'ai fini aux avant-postes du peloton, tu vois. Quand tu marches vite, déjà, tu finis largement dans les 10% de devant. Alors, tu vois, je me dis, les barrières horaires, il y a de quoi se questionner quand même. Nous, à la Skyrun, on a posé des barrières horaires. Chaque année, elles font débat parce qu'on passe pour une course élitiste. Moi, ça me rend fou, ça. Parce que quand tu permets au dernier de faire 4h10, le premier, il a mis 1h55, quel qu'il soit, il y a plus du double. Ça me paraît normal. Tu vas sur une course de montagne, si tu n'es pas montagnard, déjà, tu vas te mettre en difficulté, tu vois. Donc, tu n'y vas pas. Ou alors, tu te prépares en conséquence. Tu ne te pointes pas la fleur au fusil et dire après, les barrières sont trop dures chez vous, quoi. Non, c'est peut-être chez les voisins qu'il n'y en a pas assez, des barrières. Tu vois, moi, je me suis toujours battu avec ça, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est un débat un peu plus large, effectivement. Est-ce que ces barrières un peu élargies, on pense notamment au Grand Raid, qui a des barrières très très larges aussi.
C'est une culture, parce que l'avant, c'était une marche. Donc, tu vois, au Grand Raid, c'est peut-être pas un mauvais exemple, France. Mais globalement, je trouve que les barrières, elles sont quasiment pas éliminatoires. Et parce que c'est pas bien d'éliminer les gens, parce que c'est des clients. Et tu vois, on arrive un petit peu à la problématique que je soulève, quoi.
Tu penses que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu penses que c'est notamment ces barrières ou c'est les différents sujets qu'on évoque, c'est vraiment parce que derrière il y a une notion de mercantile, il y a une notion de commerce qui fait que les règles sont faites pour ça. Tu penses pas qu'il y a peut-être une notion un peu plus de prendre en considération, de prendre en compte les gens qui ont peut-être un peu moins de capacité de niveau, etc. Tu penses toi vraiment que tout ça c'est fait pour faire de l'argent, quoi, en gros?
Ouais, je grossis vraiment le trait exprès, tu vois, je suis un peu provocateur à chaque fois que je dis ça, mais moi, la tendance, elle est quand même que le niveau global baisse. Voilà. Ça, je parle pas que du travail, je parle du niveau sportif en général. Je suis enseignant, je le vois avec les élèves, la sédentarité, elle gagne toutes les classes d'âge, quoi. Et donc, effectivement, le travail est touché aussi par ça, quoi. Je trouve que la notion de performance, elle baisse, les exigences, elles baissent. Et est-ce qu'il faut du coup ouvrir les barrières pour satisfaire le plus grand nombre parce qu'ils sont encore en difficulté, ou est-ce qu'il faut les rendre plus stricts pour forcer les gens à revenir un peu en arrière et à se bouger le cul, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, moi, je suis plutôt de l'ancienne école, quoi. J'ai une référence, c'est la course du Vignemale. On fait du Vignemale à Cotteret. c'est une course qui a lieu allez, 5 ou 6 fois. Tu sais, c'est très ponctuel. Ça... Elle a lieu dans les années 90. Alors moi, j'avais 10 ans. Mon père la faisait. Donc, ça m'avait un peu marqué. C'est un peu un déclic à l'époque. Et j'ai eu l'occasion de la refaire dans les années 2018-19. Un truc comme ça. Ils l'ont remis au goût du jour. J'ai un pote qui l'a fait. Il fait le même temps que mon père. Je te dis une bêtise, 5h15. Quoi, pour faire les 35. Mon père avait fait 75e à l'époque. Mon pote, il fait 15e. Bah, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans, quoi? Pourquoi la densité, qu'à l'époque, il y avait une densité aussi énorme. Les temps des vainqueurs sont à peu près les mêmes. Il n'y a plus de densité derrière. Le temps moyen recule et ne cesse de reculer. Quoi. Comme c'est le cas sur le marathon sur route, d'ailleurs. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois que ça fait que reculer d'année en année. Les temps moyens sur les gros marathons.
Après, ouais, est-ce que la question derrière ça, c'est est-ce qu'on est pour la démocratisation du sport ou est-ce que effectivement on est pour le fait de privilégier effectivement les niveaux de performance un peu plus élevés. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur le sujet.
Privilégier ou est-ce que c'est les pousser les gens à aller un peu plus loin. Enfin, tu vois, non, je suis pas pour être élitiste dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il faut pas pousser les gens pour leur faire prendre conscience aussi, parce que tu vois. Quelqu'un qui repart avec sa médaille finisher, il a fait un marathon de 40 bornes avec 2000 en 12 heures, et il se prend pour un trailer après la machine à café et un coureur. Bon, il a fait une randonnée. Et il a fait du sport, c'est très bien. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de la randonnée? Pourquoi il va dire, moi, je suis un coureur? Moi, j'ai rien contre la randonnée, c'est très bien. Tu vois, mais sauf que les autres, maintenant, ils viennent chercher des médailles, ils viennent chercher des t-shirts, même marqué finisher. C'est ça qui me gêne un peu. Tu vois, on va consommer un truc pour se faire briller, pour se montrer. La randonnée, il y a de la place en montagne pour tout le monde, quoi. Je trouve qu'on perd la notion de course, de compétition, quoi.
Sur la notion de densité, je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où moi ce que je vois notamment dans le sud-est, c'est quand même globalement quand on compare un peu les certaines courses sur différentes années on peut s'apercevoir quand même que avant t'étais avec un temps donné t'étais 50e, maintenant t'es 100e, quoi. Donc j'ai aussi les exemples contraires de cette densité dont tu parlais tout à l'heure me concernant chez moi et je pense dans d'autres régions.
Ouais, mais ça c'est peut-être parce que effectivement la démocratisation entraîne une massification et on a quand même beaucoup plus de cours maintenant. Mais comparé à quoi, à 5 ans en arrière? Peut-être pas 30 ou 40, tu vois. Les performances, on a peu de courses où on peut comparer les temps finalement sur une échelle aussi longue. Parce qu'à l'époque, les courses en montagne étaient rares. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais dense, d'ailleurs. Il faut peut-être nuancer ce que je viens de dire, parce que vu qu'il y avait peu de courses, ben, tous les coureurs, les spécialistes, ils allaient sur les mêmes. Quoi. Ouais, c'est alors clair. Que maintenant, on a un panel de courses tellement élargi que... On se croise plus, quoi.
Moi, la réaction que j'ai eue par la suite à votre annonce, ça a été quand même, comme je disais tout à l'heure, j'étais assez triste parce que je me suis dit, putain, c'était un événement qui, c'est un événement hein, et c'est pas encore terminé. C'est un événement qui regroupe tout ce qu'on attend d'une course de trail, comme je l'imaginais moi dans ma et je m'imaginais que c'était un peu le garde-fou, le dernier des Mohicans des courses un peu. Comme le village gaulois, là, un peu au milieu de tout ça. Toi, t'as pas eu la, comment dire, vous avez pas cette sensation que vous auriez pu ou que vous pourriez être un événement garde-fou dans ce milieu du trail en pleine évolution?
Si, ouais, je l'ai ressenti. Ça, c'est une évidence. On me l'a dit, ça se ressent. On était un petit peu en marge de tout. Mais par contre, j'ai jamais organisé la Skyrun pour mener un combat ou pour être le Robin Hood, tu veux. Donc du coup, même si je le ressens, c'était pas la vocation de cette course, quoi, tu vois. J'ai pas fait ça pour ça, quoi. On a fait ça pour passer du bon moment et on a passé 10 années extraordinaires avec toute l'équipe. C'est ce qui le plus parlant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 10 ans, le bureau il a jamais changé. On est 5, c'est les 5 mêmes avec les filles, tu vois.
Salut filles.
Tous les postes de ravito, les 5 postes qui n'ont jamais changé, les 5 responsables sont les mêmes depuis 10 ans. On a 2 clubs qui viennent nous filer un coup de main, un des Landes, un de Dordogne. Hein. Dordogne, c'est quand même à 350 bornes. Hein. Ils viennent depuis 10 ans, ils étaient à la première, ils seront là la dernière. Mais tu vois, c'est ça qu'on gardera, c'est qu'en fait, la Skyrun, ça a été une famille, on a vécu un truc extraordinaire pendant 10 ans. Et on continuera de se voir après la Skyrune, juste en dehors, sous d'autres formes. Mais en fait, pour nous, ça ne s'arrête pas, quoi. Tu vois, nous, la Lemur Team, l'assaut qui organise, elle ne s'arrête pas. On arrête juste de partager ça avec des gens parce qu'on ne s'y retrouve plus, quoi.
Est-ce que c'est avec regret de ton point de vue et du point de vue des organisateurs, ou c'est vraiment une décision assumée et limite un sentiment de pas de
pas un soulagement non un plus soulagement. Mais non, il y a ni regret ni soulagement, c'est une décision voilà, mûrement réfléchie, totalement assumée, et puis voilà, il y aura un avant, un après, mais moi je suis pas inquiet sur les activités qu'on va avoir après, quoi. Tu vois, nous on va continuer à se rassembler, à faire des week-ends en montagne. S'il y a des cours qui nous plaisent, on ira quand même en faire, hein. On en fait beaucoup, mais on ira quand même en faire quelques-unes, tu vois, voilà. Ça restera une tranche de nos vies où on aura des histoires à raconter, c'est sûr.
Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez été surpris, toi, en premier lieu, des réactions que cette annonce a suscité?
Oui, ouais, enfin, surpris, pas tant que ça, mais on voit bien qu'il y a deux types de réactions. Il y a les puristes, ou tous ceux qui ont déjà un peu vécu la Skyrune, ou qui ont du train depuis quelques années, qui soutiennent vraiment et qui comprennent. Et tu as aussi les nouveaux arrivants qui n'arrivent pas du tout à comprendre ça, quoi. Parce qu'ils n'ont connu que le modèle actuel, un petit peu business économique. Eux, ils assimilent la Skyrune à ce modèle-là, ils assimilent les Golden Trail Series à ça, ils n'ont pas un peu tous les éléments, et du coup, ils disent, oh, ils arrêtent, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est souvent ce que j'ai lu un petit peu les commentaires en lien avec ton post, hein. C'est souvent ce qui ressort, c'est cette incompréhension parfois de vous êtes associé au Golden Trail, vous faites partie un peu du système, et toi ce que tu dis clairement, c'est qu'en fait il y a pas de rapport. Tu peux préciser ce point de vue?
Non, il y a aucun rapport. Je crois que dès les premières années, on était circuit Skyrunning, voilà, c'est quand même, ça apporte un label, un petit peu de prestige, mais non, par rapport au côté élite qu'on a toujours voulu avoir en fait pour le spectacle, je sais pas. On peut pas non plus nier le fait que le spectacle à la Skyrune, il est lié à la présence des élites, quoi. Les gens, ils adorent venir à la montagne pour encourager les meilleurs coureurs du monde qui sont sur les pentes de la Rune, quoi. Enfin, pour eux, c'est aussi un honneur pour les Pays Basques d'accueillir tous ces coureurs-là, quoi. Donc, on s'est jamais caché. Et les Golden Trail Series, je vois pas quel est le rapport, en fait, puisque eux, ils nous aident à l'organisation, en fait, quoi. Et ils nous demandent pas un rond, quoi. C'est qu'à un moment donné, nous, on a pris le travers des Golden Trail Series, justement, et non pas celui du Skyrunning, parce que le Skyrunning, il faut le savoir quand même, hein, pour adhérer à ce circuit, il faut lâcher un gros chèque, hein. Un très gros chèque. Chose, alors que le Golden Trail Series demande zéro. C'est eux qui viennent, c'est eux qui sont venus nous chercher, quoi. Et dans l'état d'esprit, c'est complètement différent. Alors qu'au niveau image, et que les gens se font des a priori complètement négatifs et opposés.
Parce que... Il n'y a pas de lien, donc tu confirmes, il n'y a pas de lien entre guillemets financier entre l'événement et le circuit Golden Trail, quoi.
C'est eux qui apportent une subvention en tant que sponsor, en fait, quoi. Ils nous aident à l'organisation.
Tu as parlé aussi notamment un sujet qui est hyper compliqué à gérer a priori en tant qu'organisateur, c'est ce lien aussi avec la fédération aujourd'hui qui vous pose problème, vous en tant qu'organisateur. Tu peux en dire deux mots?
Ouais, c'est très compliqué. C'est vrai que j'ai jamais été pro fédération, pro FFA, mais au fil des ans, ils ont quand même mis la main sur la pratique du trail, hein, parce que je pense qu'il y a une énorme manne financière pour eux en termes de licenciés. Hein. Voilà, le prix des licences, je ne sais pas combien de licences en France sur le trail, mais ça va représenter un énorme budget pour cette fédération. Donc, ils ont mis la main un peu dessus, et quelque part, on n'est pas obligé de s'affilier à la FFA, mais quand même, on se rend compte que si on veut décrocher des subventions publiques, c'est un conseil départemental, conseil régional, et à un moment donné, dans les cases, il faut être affilié à la fédération délégataire. Et la fédération délégataire, c'est la FFA. Voilà, si on veut rentrer vraiment dans les clous. Après, je pense qu'il y en a qui arrivent à avoir des subventions parce qu'ils connaissent des bonnes personnes, etc. Mais nous, ce n'est pas du tout notre cas. Donc, nous, on a toujours fait les choses dans les règles. On a rempli les dossiers chaque année, dossiers types. Et dans ces dossiers types, on te demande aussi notamment des labels, un label FFA, régional, national. Donc, tu te dis, OK, ça dépend de l'envergure de ta course. Tu dis, tiens, et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Le label, il s'achète. Tu achètes ton label à la fédération. Le départemental, il vaut tant. Le régional, il vaut tant. Le national, il vaut tant. Le international, il vaut tant. Après, il y a un cahier des charges à remplir. Mais tu achètes ton label pour ensuite avoir la subvention qui va avec. Qui est proportionnelle à ce label. Donc, en gros, le label régional, tu l'achètes, je sais plus, je crois que c'est 300 euros ou 500, je sais plus. Et ce qui te permet d'avoir une subvention à peu près de 1000. Et si tu achètes le label au-dessus, tu as la subvention, elle va être triple. Enfin, tu vois, c'est un système quand même qui est margeau.
Ouais, donc c'est et sur l'aspect réglementation en lien avec les épreuves FFA, il y a également aussi vu que tu rentres dans le cadre d'une épreuve FFA, il y a des juges arbitres qui viennent sur l'événement. Tu peux en parler aussi de ton retour.
Ouais, là-dessus. Ben là, j'ai des anecdotes très très drôles, mais je peux pas tout balancer comme ça. Mais des fois, tu te rends compte, il y a des juges arbitres, les derniers qui sont venus, ils étaient très bien. Mais on est tombé sur des juges arbitres qui ne connaissaient rien du tout au trail. Et qui arrivaient de la course sur route et qui ont été envoyés là parce que dans le comité, il était dispo. Et ah, mais là, tu as des trucs hallucinants. Quoi. Mais bon, c'était ça, c'est plutôt drôle qu'autre chose.
Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier, Nico? Petite anecdote, quand on a parlé ensemble l'année dernière, quand je t'ai demandé qu'est-ce qu'il y aura de spécial sur la dixième, tu m'as dit rien. On ne change rien. Vous êtes toujours sur la même lignée, rien changé, même pour la dernière?
Non, rien du tout. Tous les grands axes sont reconduits à l'identique, une rando ouverte à tous et gratos, pour que ça soit la folie un peu là-haut. La course des jeunes, bon, là on fera la dernière, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont passés. La Skyrun, aucun changement. On a deux petites idées. Une pour la soirée, c'est sûr, celle-là elle aura lieu, mais celle-là on ne peut pas la dévoiler. Et après, pour la course, peut-être l'idée d'amener du monde au sommet, quoi, mais on réfléchit au techniquement.
Yeah. Il y aura David Guetta en haut, à Miramar ou pas?
Non, ça, on peut pas. Bon, on sait pas.
On peut pas tout dévoiler.
Non, on va essayer de finir vraiment bien, quoi. Voilà. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs de ces 10 ans sur la dernière, quoi. Qui étaient partenaires d'avant, de maintenant. Qu'ils aient été les athlètes, les anciens vainqueurs, essayer de les faire venir. J'ai cru voir quelques réactions, j'ai même pas eu le temps de répondre à tous encore, mais il y en a plusieurs qui sont motivés pour venir, ça c'est cool. Rassembler toutes les assos pour lesquelles on a œuvré un petit peu tous ces 10 années passées. Tu sais, chaque année, on défendait une asso. Donc là, je vais les contacter pour savoir s'ils veulent venir avec une jouelette, être bénévole, faire partie de l'orga, peu importe, trouver une façon ou une autre pour rassembler tout le monde, quoi.
Ça va être la dernière édition, la 10e, et ça va être, j'ai l'impression, d'après ce que j'entends, de ce que tu dis, ça va être aussi une occasion de se retrouver et de faire vraiment un truc.
Rien de plus qui pourrait me tenir à cœur, c'est de rassembler tous ceux qui ont aimé et qui veulent le vivre une dernière fois, quoi. Voilà. C'est ni plus ni moins. C'est pas pour faire le buzz, c'est pas pour faire. Il n'y aura rien après. Enfin, j'ai vu ça aussi comme réaction. Ouais, ils ont dit ça pour faire venir tout le monde, c'est énorme, c'est super. Super moyen de communication, et derrière, ils vont nous prendre un truc. Mais non, derrière, il n'y aura rien. Enfin, moi, j'ai toujours été transparent. Donc, non, c'est vraiment finir bien, quoi. Voilà.
Il n'y aura pas de retour en arrière, de ton point de vue? C'est vraiment une décision fermée définitive?
À ce jour, elle est fermée définitive. Après, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Mais en tout cas, à ce jour, il n'y a aucun plan B, absolument pas.
Qu'est-ce que tu dis aux gens qui, encore une fois, j'insiste encore sur ce point, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, tu dois t'arracher les cheveux là, en voyant les réactions qu'il y a. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui doutent des raisons évoquées, notamment sur tes posts, sur le post de la Skyrun? Quel message tu voudrais leur adresser?
J'ai pas tout vu, j'ai pas tout lu, j'ai réagi à rien du tout. Déjà, ceux qui réagissent négativement et qui ne sont jamais venus, c'est pas la peine de répondre. Là, tu vois, voilà. Moi, je ne veux répondre qu'à ceux qui sont venus et qui peut-être ne comprennent pas. Mais je pense qu'il n'y en a plus beaucoup déjà, tu vois. Que la Skyrun, effectivement, de l'extérieur, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de gens qui ont cru à un moment donné qu'on était une organisation professionnelle, parce qu'on était une grosse course, là, tu vois. Mais en fait, quand tu nous connais après et que tu as vu ouais. ce qui se passe, non. C'est à l'opposé. Justement, quand on dépend, c'est l'opposé.
Donc, c'est pas c'est une asso, mais c'est quand même une qualité. C'est d'une très grande qualité, je trouve, l'organisation, quand même, malgré tout.
Ouais, parce qu'on y a mis du cœur, parce que j'ai du temps et parce que je suis passionné, quoi, et que j'adore ça. Voilà. Mais je sais pas, ce que j'ai envie de leur dire aux détracteurs, c'est venez à la 10e, en fait, et vous ferez votre propre avis une fois que vous l'aurez vécu au moins une fois, quoi. C'est, je peux pas dire autre chose. Je pense que si t'es, ceux qui sont venus, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de détracteurs.
Si tu devais refaire l'annonce, est-ce que tu regrettes, la question que je vais te poser est très directe, est-ce que tu regrettes d'avoir, entre guillemets, sorti le lance-flamme et le chalumeau en même temps que l'annonce de la dernière édition? Est-ce que à refaire, tu referais pareil ou pas?
Ah ben je refais exactement pareil, pourquoi tu je regrette quoi? J'en regrette rien du tout. C'était presque prémédité, tu sais, c'était le jour de mon anniversaire.
C'est vrai?
c'était un peu symbolique. Je voulais le faire, c'est le jour de mon anniversaire, je me suis fait cadeau, je me suis fait plaisir. Bon, c'était pas très stratégique parce que j'étais débordé de messages pour mon anniversaire perso et à côté.
Du coup, les messages se sont noyés, ouais. Les messages d'anniversaire se sont noyés, c'est clair. Donc ouais, c'était quand même un peu
oui.
Réfléchi,
non,
quoi.
Réfléchis et après, moi, j'ai aucun problème. Si ça va faire, je refais tout. Non. Mais puis, si tu veux me poser des questions un peu sur des sujets brûlants, il n'y a aucun problème. Hein.
Bon, la question, avant de rentrer dans les sujets brûlants, c'est est-ce que toi, t'as, par ce biais-là, par ce message-là et par cette manière de communiquer sur tes posts, est-ce que ça a été aussi un moyen tu penses que tu as un rôle à jouer
Non, pour personne. Je juste. C'est mes réseaux sociaux, c'est ma façon de partager un point de vue, quoi. Moi, j'ai toujours conçu les réseaux sociaux pour partager. Donc, en fait, je partage des photos, je partage des sorties pour donner envie aux gens d'aller en montagne. C'est ce que j'ai fait depuis toujours. J'avais un blog à l'époque, c'était pour donner envie de faire telle ou telle course, tel ou tel défi, telle ou telle offre. Ben là, j'ai partagé mon avis un peu sur l'évolution du trail. Tu n'es pas obligé de la partager. Après, tu lis, tu prends, tu ne prends pas. Les critiques, effectivement, sur les réseaux, faut pas trop rentrer dedans parce que ça peut être dangereux, quoi. Ça part un peu à n'importe quoi. Vaut mieux parler de vive voix, hein, avec.
C'est clair. Puis en plus, avec cet épisode, tu pourras dire à ceux qui te posent des questions, allez écouter l'épisode, au moins ils auront toutes les réponses. C'est l'avantage. C'est moi, je dis souvent un truc qui me tient à cœur. Alors, on va élargir un petit peu la discussion sur la communauté du trail, l'évolution, etc. Mais bon, tu sais que moi, je suis un peu parti de ce que tu dénonces, en fait, hein, cette professionnalisation du milieu. Je suis coach professionnel moi-même. J'en fais une activité. Je dis souvent au micro du podcast que moi, je crois énormément à un trail à deux visages. Peut-être pas à deux vitesses, mais à deux visages, c'est-à-dire un trail clairement orienté business et un trail plutôt orienté populaire. Toi, de ton point de vue, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable dans notre discipline?
Bah si, moi je pense qu'on en prend le chemin. Non, mais clairement, il y a les deux modèles vont exister. Sauf que à la Skyrun, ils peuvent pas exister ensemble. Mais les deux modèles vont exister. Je pense que les trains des courses de village, il y en aura toujours. Heureusement, il y aura des gens passionnés qui vont organiser des courses. Il y aura des courses pour tous les niveaux. Mais ça, il n'y a aucun problème. Moi, je suis tout à fait pour. Hein. C'est quelque chose que j'irais plutôt de ce côté-là, tu vois, que le côté les courses bling-bling, quoi, c'est sûr. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein.
Moi, c'est vrai que c'est un truc, c'est quelque chose que je dis souvent, encore une fois, c'est qu'on a le choix. Tu vois, aujourd'hui, alors, est-ce que la question, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que à moyen terme ou à long terme, on aura encore le choix de participer à ces deux formes de courses-là? Je suis pas forcément sûr, mais d'un autre côté, tu vois, je veux dire, le trail, moi, je pense au trail de Mimé chez nous, au trail d'Agaïnette, au trail de la Sainte-Baume. Alors, effectivement, si ils se frottent au même problème que toi, c'est-à-dire les soucis en lien avec les augmentations des prestataires qui font qu'à un moment donné, ben, on pourra plus assumer le fonctionnement pérenne financier des organisations. Là, ça va être compliqué. Mais
non, voilà. Taxer les coureurs. Et après, la solution, c'est taxer les coureurs. Et là où ça perverse un peu le système, c'est que du coup, c'est plus accessible à tout le monde. Ça devient trop cher. Et c'est ça qui me gêne un peu, quoi. Tu vois ? C'est des courses. Les deux modèles vont exister, mais je ne sais plus dans quel article je disais ça, mais l'UTMB, il fait rêver tout le monde, je peux comprendre. Hein, faire le tour du Mont Blanc en courant, c'est symbolique et c'est hyper beau, quoi. L'événement, il est quand même. Tu dois vivre des émotions incroyables. Hein, voilà. Moi, j'étais il y a 20 ans, presque, il y a 15 ans. Mais maintenant, c'est plus du tout accessible à tout le monde. C'est ça qui me gêne, quoi. C'est qu'il faut débourser entre 5 et 10 000 euros sur 2-3 ans pour récupérer tes points, t'équiper, t'héberger. Dans une période de crise économique, tu vois, on peut pas se voiler la face, quoi. C'est pas accessible à tout le monde.
Tu fais souvent le lien entre le vélo que tu as vécu, le triathlon, etc. On en prend le chemin, c'est-à-dire un sport CSP+, voire plus. Effectivement, t'as raison, hein, moi je suis assez aligné avec ça. Puis on le constate, hein, quand tu mets le budget de ce que ça peut te coûter, la participation au final de l'UTMB. Alors, on parle de l'UTMB, mais voilà.
Parce que c'est la locomotive qui entraîne tout le monde dans son sillage. C'est pour ça qu'on est toujours sur eux comme on a tapé. Mais mine de rien, s'il n'y avait pas la locomotive, peut-être que derrière, ça ne serait pas la même chose. Donc moi je trouve que c'est normal qu'il faut qu'ils assument complètement, hein, mais il faut pas se voiler la face, ça entraîne tout le monde dans le sillage.
Et tu penses que cette locomotive qui entraîne la professionnalisation du sport et tout, ça a des impacts négatifs du coup sur les petites organisations de courses comme les vôtres?
Sur les petites courses, pour moi il n'y a pas d'impact réel, non, je ne suis pas sûr. C'est sur le sport en lui-même après, tu vois, qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas, tu vois, on veut que les...
l'argent... Tu peux répéter Nico, ça a coupé.
Mais l'argent, quel que soit le milieu, n'a jamais apporté des bonnes choses. Hein. On vit dans un monde qui est gouverné par l'argent et on voit la direction que prend le monde en général, c'est pas forcément bon.
Après, sur l'aspect argent, développement économique de notre milieu, est-ce que tu penses pas que cette locomotive ou ce système qui est en train d'évoluer vers un milieu où il y a de plus en plus d'argent ne peut pas être bénéfique aussi pour les athlètes élites, notamment pour les athlètes professionnels qui pourront peut-être plus vivre de leur passion? Voilà, la question elle est là aussi. Est-ce qu'on reste dans cette espèce d'entre-deux ou est-ce qu'on va vers est-ce qu'on met all-in, quoi, est-ce qu'on va vers un sport vraiment professionnel, quoi?
Moi je suis pas pour quel que soit le sport, hein. Et tu vois, quand tu vois les sommes d'argent, dans quel sport tu peux vivre vraiment sereinement de ton sport? C'est le basketball, le football, peut-être le rugby, hein. Et après, et quand tu vois les masses d'argent qu'il y a, on en est loin, loin, on n'y arrivera jamais. C'est un sport où tu n'auras jamais cet argent-là. C'est pas assez bancable, c'est pas assez télévisuel, il va falloir le transformer. Enfin, c'est les télés qui apportent l'argent, hein, pour ces sports-là. Donc, on n'y arrivera pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille y aller. Tu vois, les autres sports un peu de ce niveau-là, c'est un sport d'endurance. Donc, après, tu touches toutes les dérives qu'on a évoquées. C'est sûr, on va y tomber, c'est obligé. Du moment où tu veux vivre de tes performances, parce que c'est tes performances qui te font vivre, c'est dangereux. C'est très dangereux, quoi. Parce que bon, c'est un métier, voilà. C'est pour manger après, c'est pour ta famille derrière. Bah, tu vois, c'est pas juste pour gagner des primes et te faire plaisir. Si tu les as plus, tu peux peut-être plus payer ton loyer. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'éphémère. Hein. Ça dure 2 ans, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans pour les meilleurs. Tu te blesses. Terminé. Tu sais quoi après? Combien on a de sportifs qui se retrouvent à la rue? Cela, on n'en parle pas. Nous, on voit que ceux qui brillent à la télé, même dans les sports que je t'ai cités, dans les plus grands sports. On se réfère à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Mbappé, il fait rêver tout le monde. Il y en a combien, des Mbappé? Et tu vois, il y a des footballeurs qui gagnent bien leur vie et qui, à la fin de leur carrière, se retrouvent avec rien. Parce que pour une gestion, machin, mais pourtant, ils ont gagné leur vie 10 fois plus ou 20 fois plus que le meilleur travailleur du monde en ce moment. Donc, tu vois, il faut avoir une vision vraiment à long terme, quoi. Des cyclistes qui vivent bien du vélo, il y en a, mais après leur carrière, ils font quoi? Ils arrêtent à quel âge? 32, 33, 35 ans? Ben, la vie est comment, quoi? Tu vois, et après, tu fais quoi? Ils finissent mécano, directeur sportif, dans le milieu du vélo. Tu vois, est-ce que c'est un modèle qu'on veut, quoi? Je sais pas.
Moi, quand je t'écoute, je me dis quand même, c'est un peu, ça me semble un peu, il y a un paradoxe qui me saute à la gueule. C'est, quand on t'entend, on sent que pour toi, la compète, le niveau de performance, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est-à-dire, t'aimes ça, t'aimes la perf, t'aimes les gens qui se dépassent, t'aimes ceux qui. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est compliqué aussi de. T'as pas trop envie que ça aille trop non plus du côté de la perf, parce que toi tu penses qu'en gros, pour faire simple, il peut y avoir de la perf sans argent et sans sponsoring, sans être.
Pour le plaisir, quoi. Ouais, pour le plaisir, parce que t'aimes ça, quoi. Moi, c'est toujours que j'ai toujours fait ça, moi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Parce que j'aime ça, j'aime me dépasser, j'aime aller chercher mes limites, mais sans intérêt, quoi. Juste pour le plaisir de le faire, quoi. Je suis d'accord, hein, y a des. Il y a des paradoxes dans tout ce que je dis, hein. C'est, tout n'est pas, pas blanc, tout n'est pas noir, mais.
Non, mais au moins t'as la, au moins t'as le, au moins t'en parles et tu, voilà, et tu exprimes tes opinions et c'est, moi j'aime ça aussi, hein, c'est-à-dire la discussion, la communication. Sur l'aspect du dopage, tu sais que moi j'ai fait un épisode avec Odile Baudrier, que tu dois connaître, avec Christophe Basson, avec Fred Bousseau sur ce sujet-là. On est rentré bien dans le détail sur bah, sur les problématiques en lien avec avec ce sujet du dopage. Toi, ce qui, j'ai l'impression, t'as un peu chagriné, c'est notamment dans le cas des dernières affaires qui sont sorties, c'est les bah, les l'absence de réaction des team managers ou des teams. Est-ce que tu peux nous en parler de ça?
Ouais, ça va être difficile d'en parler beaucoup parce que là, ça va devenir très nominatif. Je vais me faire attaquer après. Donc, c'est difficile. Mais ouais, je pense que dans le vélo, quand tu as un cas de dopage qui sort, c'est l'équipe qui s'exprime aussi derrière, quoi. C'est pas que le sportif qui est mis au placard, quoi, tu vois. Et là, on n'a aucune réaction. Voilà. On a l'impression que le sportif est isolé. Alors que bon, maintenant, ils sont quand même bien encadrés, hein. Les teams, c'est quelque chose de sérieux, avec des médecins, avec des nutritionnistes, avec des kinés, avec des machins. Voilà, ils sont encadrés, les coureurs. Donc, le coureur peut être tout seul responsable, mais l'équipe doit s'exprimer, quoi. Je pense, hein, tu vois, je trouve bizarre. Il y a des choses qui sont pas très claires encore. On est sur les premiers cas, hein, parce que je pense que la lutte antidopage ne fait que commencer. Je pense qu'elle est en avance en France par rapport aux autres pays. Mais la lutte antidopage dans le trail, elle est infime, quoi. C'est un truc qui m'a sauté aux yeux l'année dernière, que je trouvais. C'est Thibaut Barognan, là, qui fait un post en fin d'année. Il dit et moi, j'ai pas été contrôlé une seule fois de l'année. Ah ouais. Non, c'est oui, parce qu'il avait reçu un contrôle inopiné, un truc comme ça. Mais c'est la première fois de l'année, hein, de toute la saison, il n'a pas été contrôlé. Alors que Thibaut, on sait quand même que c'est un des meilleurs Français.
Et champion de France de trail court.
Donc pas de contrôle. Il a été en équipe de France, il a fait champion du monde où il fait 5 ou 6, bah, donc pas de contrôle, ni en équipe de France, ni lors des champions du monde. Il était à l'UTMB, pas de contrôle. Bah, tu vois, c'est preuve quand même que des contrôles, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est ça qui m'a interpellé, quoi.
Après, comme tu dis, on est en avance par rapport aux autres pays, je pense. Et je pense que tu as raison, notamment avec la FLD. Il y a des gens qui rentrent dans des processus de contrôle de dopage au long cours.
Et ça, c'est très bien. Ah ouais, je
Voilà.
l'ai vu, ça. Ils sont une dizaine ou une douzaine. Bon, ils sont pas beaucoup, mais.
Donc il y a des évolutions positives de ce point de vue-là, en tout du moins dans notre pays, en ce qui concerne notre pays. Donc c'est plutôt des choses positives, on
Ah
peut
oui,
dire.
mais c'est sûr. Ah, mais oui, c'est sûr. Sauf que, bon, tu le vois bien dans le vélo, les cyclistes sont contrôlés 80 fois par an. Mais pas pour autant que la lutte elle est en avance. Le dopage sera toujours en avance sur la lutte anti-dopage. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a toujours des médecins qui n'ont aucune morale et qui se font un malin plaisir, hein, de contourner les contrôles de leurs collègues, quoi. Enfin, tu vois, c'est le chat et la souris, il y a toujours un retard. Tu vois, les contrôles de maintenant, ils sortiront positifs dans 10 ans. C'est ce qu'on constate maintenant dans le vélo. Et malheureusement, ils savent très bien comment contourner les contrôles.
Il y a une notion aussi que tu as mis en avant, et d'ailleurs, ton poste, il m'a fait un peu penser. Est-ce que tu as lu le point de côté numéro 5 des genoux d'un gif? Tu l'as lu ou pas?
Le 5,
Le
non.
dernier.
Non.
Il y a un article, alors je me rappelle plus l'auteur exactement qui l'a écrit cet article. J'en avais parlé avec Robin Schmitt dans un épisode. Ton post Facebook m'a fait penser à cet article où ça tire à boulet rouge un peu sur tout azimut là, et notamment tu parles aussi de l'écologie dans le trail et notamment du greenwashing de certaines orgas notamment. Toi, parce que d'un point de vue orga, tu peux en parler.
Bah, je peux en parler, de toute façon, tout orga est anti-écologique. C'est clair et net, messieurs. Plus tu grossis, plus c'est pas bon. Tu fais déplacer des gens, donc, c'est pas écologique. Tu peux retourner un truc comme tu veux. Là où ça devient risible, c'est quand tu appelles éco-machin, que tu dis que tu fais des actions éco-responsables, machin, tu fais du tri. C'est de la fumisterie. Parce que l'événementiel, de toute façon, est anti-écologique. C'est juste les communications qui font qu'ils sont à mourir de rire, en fait. Mais on arrive à y croire, en fait. C'est que dans le monde actuel, maintenant, tu arrives à faire croire ça, quoi. C'est là que c'est aberrant. Pour
T'as
moi.
un regard assez cynique sur tout ça, hein, quand même. On sent que c'est.
Mais qu'est-ce que tu veux avoir d'autre regard que la planète, elle se casse la gueule. Et les politiques, ils font des COP tous les 6 mois et ils s'en vont à Dubaï faire des COP et en fait, la planète, elle se casse la gueule toujours. À un moment donné, tu peux qu'à rigoler. Il n'y a rien qui est mis en place. Le monde ne va pas changer et personne n'a envie que le monde change et son fonctionnement. Donc au final, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un peu comme l'évolution du travail, tu vois. C'est pareil. On va suivre le truc, quoi. Le mouvement.
C'est rigolo, oui et non. Tu vois, quand je t'entends, quand j'ai un échange ensemble, là, c'est pas du tout l'image que j'avais de toi l'année dernière dans le cadre de l'événement. Et j'avais plutôt la sensation que tu étais quelqu'un d'assez optimiste, d'assez. Alors, je savais que tu avais des valeurs, des idées très fortes que tu défendais, mais je pensais pas que tu étais à ce point, comment dire, pessimiste, en gros, sur le monde qui nous entoure. Et alors, on se connaît pas assez, clairement.
Hein. Après, je suis quelqu'un de très positif, hein. Non, c'est pas la question. Mais bon, il y a des choses, il faut pas te voiler la face, quoi. Et comme je t'ai dit, je vais pas révolutionner le monde, quoi. C'est comme ça. Mmh. C'est. Il faut être aussi un peu fataliste. Quoi. Mais par contre, je suis quand même très positif et très heureux. Et je ne suis pas inquiet de mon avenir non plus pour la suite. Hein. Mmh.
Globalement, c'est un peu, si on en vient gentiment vers la conclusion, vers l'élargissement de notre discussion, c'est une critique un peu générale de ce qu'est en train de devenir le monde du travail, de son évolution que toi, tu as vue clairement au premier plan depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu trouves malgré tout de positif à cette évolution-là par certains aspects? Est-ce qu'il y a des choses positives à ressortir quand même, tu penses, ou pas?
Oui, non, mais oui, bien sûr, il y a des choses positives. Tu disais, c'est la démocratisation quand même, que les gens vont dehors, ils aiment courir, ils apprécient la montagne, c'est quand même positif, quoi. Non, mais bien sûr. Ça fait quand même plaisir de voir que les gens sont aussi quand même sensibles au sport d'or, c'est bien. C'est ce qu'on voulait développer au début, quand il ne faut pas oublier, voilà, les fondamentaux, c'était quand on organise un événement, c'est promouvoir la pratique que t'aimes, promouvoir le massif que t'aimes. Et de ce côté-là, on peut dire qu'on a quand même réussi quelque chose.
Après, il y a cette notion aussi de. C'est vrai que vous étiez un peu les trailblazers, là, ceux qui débroussaillent un peu le chemin, là, d'un truc un peu vaguement, parce qu'à l'époque, quand on lisait trail, personne ne savait ce que c'était, etc. Donc, vous avez, entre guillemets, tous les anciens organisateurs, ceux qui étaient là au tout début, eu cette volonté de développer le truc, de développer la discipline, comme tu viens de le dire. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça fait un peu marche arrière et de se poser la question, merde, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, quoi?
Ouais, c'est ça, ça fait un peu fait boomerang et tu dis merde, oui, il y a trop maintenant. Oui, c'est un peu ça. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place pour tout le monde aussi sur les sentiers, sur une course. Hein. C'est compliqué. On voit bien que certains organisateurs, ils sont coincés entre les deux. Soit je garde mon modèle à 300 coureurs, soit je fais 8 courses à 300 parce que j'ai de la demande et que j'ai envie de faire plaisir au final. Comme pour un business, quelque part, tu as envie de faire plaisir. Tu as de la demande, tu te dis, je vais satisfaire tout le monde. Et après, tu te tends dans une spirale économique, écologique, tu sais plus où t'en es après, quoi. C'est compliqué.
Non, c'est clair. C'est quoi la suite là pour toi, Nico, les prochaines étapes dans l'organisation pour qu'on comprenne un peu mieux de ce qui vous attend là pour jusqu'à septembre?
Ouais, ben là, depuis hier, je suis à fond sur tout ce qui est prestations, financement, sponsoring, voilà, pour boucler le budget en fait, hein, voilà. Ça prend vraiment un laps de temps assez important dans tout finaliser. Après, on bosse un petit peu sur tout ce qui est dotation. On se fait plaisir là, avec les designs, les graphistes. Là, on a des super équipes qui bossent. Là, et du coup, là, on se fait plaisir. C'est quand même la bonne partie du boulot. Et après, petit à petit, plus on va avancer, plus on va passer la phase d'inscription. Inscription mai-juin. Voilà, donc là, il faut gérer un tirage au sort avec des fichiers Excel. C'est jamais très simple parce qu'en fait, quand tu inventes des règles de tirage au sort, il faut toujours penser à comment ils vont dévier les règles. C'est comme ça que ça marche maintenant. Donc, du coup, il faut toujours
tester. C'est comme le dopage.
Oui, mais en fait, c'est ça. Mais les gens passent leur temps à contourner les règles. Donc, du coup, tu inventes un truc et tu dis comment je vais le contourner. Putain. Non, mais c'est ça. Donc, la phase d'inscription en mai-juin. Et après, mise en place un peu plus concrète, toute la partie logistique et la gestion des bénévoles. Et puis après, ça passe vite, quoi. Les petits mois, ils sont remplis, quoi.
Bon, c'est clair. En tout cas, moi, je serai sur place, sur l'événement. Hein, j'espère être pris au tirage au sort que je ferai au mois de mai. En tout cas, je tiens quand même à dire que l'année dernière, effectivement, je suis venu et que tu mettais et tu mets encore un point d'honneur à pas payer les médias, les journalistes, etc. Donc, ça, c'est important pour toi, je pense, aussi en ce qui concerne l'indépendance.
C'est quelque chose, je me suis rendu compte que ça fonctionnait comme ça en fait. Ouais, il faut acheter des médias spécialisés. Ça, c'est difficile.
Ça, c'est quelque chose qui te pose souci, toi ?
Bah oui, oui, clairement. Parce qu'en fait, pour avoir de la visibilité, du coup, il faut de l'argent. Donc, et cette visibilité va te rapporter aussi de l'argent. Bah, du coup, c'est un cercle vicieux. Il faut rentrer dans la bulle. Alors que moi, je pensais que la presse allait justement là où il y avait de l'intérêt, ou sportif, ou populaire, ou ce que tu veux, tu vois. Mais je pensais qu'il y avait des moyens propres pour aller sur des événements qu'ils choisissaient. En fait, non, non, il faut les inviter, et c'est comme ça qu'ils viennent et qu'ils rendent ta course populaire aussi. Mmh. Bon, c'est comme ça, c'est le système. Après, depuis le début, ça fonctionne comme ça, en fait. Hein. Mmh.
Et c'est quelque chose que tu veux pas, dans un système dans lequel tu veux pas rentrer, quoi.
Ben, je me dis, une course pourrie, s'ils ont plein de thunes, ils vont faire une course hyper médiatique alors que la course, elle est pourrie. Mmh. Ben, tu vois, s'ils achètent des médias, ils vont venir. Puisque eux, ben, il faut qu'ils mangent aussi, c'est leur business, c'est leur boulot. Donc, tu te dis, est-ce que c'est logique, pas logique, je sais pas. Mmh. C'est ce que je veux dire ?
Ouais.
C'est là que ça me perturbait, en fait.
Ouais, complètement. Bon, en tout cas, moi je serai présent encore cette année à Askin pour fêter cette. Et dernière édition, j'espère que vous changerez d'avis quand même. Et comment il va Fifi du coup ?
Fifi va très bien, il va très bien. On se retrouvera chez Gildas. Oui.
on refera un épisode pour la dernière du coup.
Avec plaisir.
Ouais, on fera ça.
On nous rencontre de place à l'intérieur, on va être trop nombreux.
C'est clair. Et puis si tu veux faire, vas-y, je te laisse faire un petit appel vu que l'épisode sera diffusé fin mars. Je te laisse faire un petit appel pour si tu veux faire passer un message, vas-y, je t'en prie.
Bon, j'ai pas de message particulier, juste ben, pour tous ceux qui veulent venir, voilà, venir passer quelques jours au Pays Basque hein, fin septembre, hein, vous ne serez pas déçus, hein, on va faire une grande fête. Il n'y a pas d'a priori négatif à avoir, c'est juste en toute simplicité, avec ou sans brossard, c'est juste vivre des émotions, ce qu'on a essayé de transmettre pendant 10 ans, et puis je pense que même sans brossard, on peut vivre quelque chose de fort et passer un bon moment, c'est tout.
Parfait, bon message passé. En tout cas, je te remercie Nico pour ta transparence. Pour le temps que tu m'as accordé aux auditrices, aux auditeurs, c'était un vrai plaisir. Et puis moi, encore une fois, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent, quitte à faire un peu grincer les dents. Mais voilà, c'est important de parler, c'est important de communiquer. Et puis, je dis aussi que ceux qui souhaiteraient réagir ou répondre à Nico ou à ce qu'on a évoqué dans cet épisode, voilà, on est tout à fait ouvert à la discussion et les canaux de discussion sont ouverts. letstry08@gmail.com.
Très bien, très bien. Parce qu'effectivement, des fois, voilà, à chaud sur des sujets, j'ai pas du tout prémédité mes réponses et du coup, des fois, on peut revenir aussi et en débattre encore et encore, quoi.
Bien sûr. Parfait. Nico, on se voit en septembre. Je te souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'organisation de la Skyrun et de cette dernière édition. Et c'était un plaisir de t'avoir.
Ça marche. Salut Nico.
Merci. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié et compris les tenants et les aboutissants qui ont poussé Nico d'Armagnac et son équipe à proposer la dernière édition de cet événement. Je remercie donc Nico pour le temps qu'il a accordé au LTP dans cette période un peu chargée et pour toute cette transparence et d'avoir répondu assez ouvertement au sujet et aux questions que je lui ai posées. N'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Strava à Nico Guilleneuf. Vous pouvez également aller sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, mettre 5 petites étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vraiment vous souhaitez aider le LTP dans sa quête de création de contenu et d'indépendance, rendez-vous sur patreon.com/letstrylepodcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut.